magazine des Nations Unies.
La coordination humanitaire en aide aux personnes vulnérables secouées par l'insécurité alimentaire aiguë en RDC. OCHA annonce l'allocation de 30 millions et demi de dollars américains pour soutenir la réponse multisectorielle des humanitaires sur le terrain. Les détails dans cette édition. La MONUSCO réagit aux propos de Paul Kagame concernant le rapport Mamping sur les violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international. Cette réaction, vous l'entendrez dans quelques instants. Santé, le coronavirus s'est invité au dernier sommet de Paris. Les chefs d'État et de gouvernement ont milité en faveur du droit pour les Africains de fabriquer le vaccin dans le continent. Vous suivrez particulièrement le propos du chef de l'État congolais et président en exercice de l'Union africaine. La Banque mondiale réitère son engagement à soutenir la gratuité des lancements de bases en RDC. Les directeurs des opérations de cette institution financière internationale s'est dit confiant après son entretien avec le nouveau ministre de l'EPST. Voilà tout pour le sommaire.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro dominical des magazines des Nations Unies. Cette émission démarre avec l'humanitaire. La coordination humanitaire alloue 30,5 millions de dollars américains pour venir en aide aux personnes vulnérables en insécurité alimentaire en République démocratique du Congo. L'information a été annoncée par voie de communiqué mercredi 19 mai dernier. Selon ce communiqué, c'est le coordonnateur humanitaire qui a autorisé l'allocation de ce montant en vue de soutenir la réponse multisectorielle en faveur de ces populations vulnérables. Voici les condensés de Maguen rendus par Vicky Odia.
Ces financements visent à faire face aux besoins accrus d'une grande partie de la population congolaise. Le coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, David Maclaclan-Carr, précise que cette somme permettra aux acteurs humanitaires travaillant en première ligne de soutenir la réponse aux besoins les plus urgents priorisés dans le plan des réponses humanitaires 2021. Elle ciblera les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, de l'Ituri, du Maniema et du Tanganyika. Les provinces du Grand Kasaï sont également concernées par cette donation. L'allocution se traduira sur le terrain sous forme des interventions dans les domaines des abris, articles ménagers essentiels, eau, hygiène et assainissement, nutrition, protection et sécurité alimentaire, indique David Maclaclan-Carr. Pour rappel, les crises successives ont conduit à une augmentation du nombre de personnes en insécurité alimentaire dans le pays. Aujourd'hui, 27,3 millions de personnes font face à une insécurité alimentaire aiguë élevée en République démocratique du Congo, indiquent des sources humanitaires.
La MONUSCO réagit aux propos du président rwandais Paul Kagame à Paris sur le rapport Mamping. Répondant à un journaliste lors de la conférence de presse des Nations Unies mercredi dernier, le porte-parole de la MONUSCO a déclaré que le rapport Mamping a documenté très clairement les violations graves des droits de l'homme et du droit humanitaire international entre 1993 et 2003. D'après Mathias Gulman, ces violations graves ont continué et continuent à se commettre en RDC. Ces propos ont été recueillis par Honoré Missenga Kalala.
Sur la question du rapport Mamping, puisque c'est ça qui était, je pense, au cœur de l'échange du président, le rapport Mamping documente de manière très claire des violations graves des droits de l'homme, du droit humanitaire international, sur la période qu'il couvrait, c'est-à-dire de 1993 à 2003. Donc pour nous, ce rapport parle de lui-même. Nous avons travaillé ici avec les autorités congolaises pour documenter toutes ces violations, les violations qui ont eu lieu notamment après 2003 et qui continuent d'avoir lieu malheureusement dans le pays. Vous le savez, c'est le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui documente et qui partage toutes ces informations avec les autorités congolaises. Et tout comme le rapport Mamping a également été remis au gouvernement congolais de l'époque.
Quant à la déclaration de Paul Kagame sur le bilan de la MONUSCO, Mathias Gelman a indiqué que chacun est libre de son opinion. Il a cependant rappelé que la mission onusienne a trouvé un pays au bord de l'explosion et que c'est avec les efforts de cette mission et des autorités congolaises que les frontières de la RDC héritées de l'indépendance ont été préservées. La pandémie COVID-19 a été l'un des grands sujets abordés au récent sommet de Paris sur le financement des économies africaines. Les participants ont convenu d'amener l'Afrique à vacciner beaucoup plus de personnes contre le coronavirus. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, en même temps président de l'Union africaine, pense qu'il est temps que l'Afrique obtienne le droit de fabriquer les vaccins sur le continent. Billy Van Lutumba.
Le président français affirme que s'il n'y a pas de mécanisme pour pousser l'Afrique à vacciner davantage, il y a donc, selon lui, des risques de commencer à courir après le virus avec divers variants.
Notre volonté, c'est d'aider l'Afrique à massivement s'équiper par des partenariats technologiques, par des financements qui sont mobilisés, en particulier Banque mondiale, et par deux choses que nous avons actées aujourd'hui, que nous soutenons, des transferts de technologies. Le deuxième pilier, c'est de pousser l'ambition de COVAX de 20% à 40%. Et donc de donner mandat au Fonds monétaire international pour regarder comment mobiliser plus de financement. C'est une enveloppe au total de 50 milliards environ qu'il faut mobiliser pour réussir cela.
Autre recommandation contre ce sommet, il a été demandé à l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, d'élever toutes les contraintes en termes de propriété intellectuelle qui bloquent la production d'autres types de vaccins en Afrique. Félix Tshisekedi.
Il est nécessaire de viser la production de vaccins en Afrique. Ça aura un impact assez important sur l'attitude des populations. Évidemment, les retombées économiques aussi qui s'en suivront. Et pour cela, nous avons évoqué l'accès aux droits de propriété intellectuelle afin que l'on puisse obtenir le droit de fabriquer les vaccins en Afrique.
Toujours dans l'objectif d'accroître le taux de vaccination en Afrique, une autre option levée, c'est celle de transférer dès le mois de juillet les doses en surnombre dans les pays riches vers les pays africains.
Le 29 mai prochain, les Nations Unies célèbrent la Journée internationale des casques bleus. Et en prélude de cet événement, une question se pose. Qui sont réellement les casques bleus et quel est leur rôle? Esquisse des réponses dans cette réflexion du magazine des Nations Unies rendue par Sumbela Pelé-Sara.
Les casques bleus sont ces hommes et ces femmes dévoués partageant le même objectif, à savoir protéger le plus vulnérable et fournir un soutien aux pays en transition de la guerre vers la paix. Les casques bleus sont des civils, des militaires et des policiers qui travaillent ensemble. Acteurs des opérations de maintien de la paix sur le terrain, les casques bleus sont des forces multinationales composées de personnels nationaux placés sous l'autorité des Nations Unies. Leur nombre varie en fonction de la mission qui leur est assignée. Les casques bleus incarnent la présence de la communauté internationale dans une zone conflictuelle. Leur mission n'est pas de s'impliquer directement dans un conflit, mais même si elle peut conduire à l'emploi de la force en état de légitime défense. Leur rôle est celui d'un observateur impartial qui permet d'informer sur l'évolution d'une situation ou de force d'interposition destinée à éviter une reprise des hostilités. Ces deux types de missions peuvent aussi être combinés. Bien que constitués des détachements contingents nationaux, sur la base d'un accord, les casques bleus sont entièrement intégrés aux Nations Unies. Leur commandement est désigné par l'organisation, les couleurs nationales sur leur uniforme et leur matériel font place aux couleurs bleu et blanc et au drapeau des Nations Unies.
Nous le disions en titre, la Banque mondiale réitère son engagement à soutenir la RDC dans le programme de la gratuité de l'enseignement des bases. Le directeur des opérations de la banque, Jean-Christophe Carrette, a exprimé la volonté de son institution à renforcer ses partenariats avec les autorités congolaises. C'était vendredi dernier à l'issue de la visite qu'il a rendue au ministre de l'EPST, Tony Mwaba. On écoute Jean-Christophe Carré.
Nous avons ce grand projet d'appui à la gratuité de l'enseignement dans le secteur de l'éducation primaire. Donc l'objet de ma visite était une visite de courtoisie, de me présenter au ministre, de le féliciter et de discuter avec lui de l'état d'avancement de ce projet et comment nous allons travailler ensemble dans les prochains mois. Je suis très rassuré par ce que m'a dit le ministre. Et je sens un leadership très fort, qui est vraiment une bonne nouvelle.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Nous recevons dans décryptage le coordonnateur du Parlement d'enfants du Grand Nord Kivu. Joël Kavouyar Kamala parle de la perception de sa structure sur l'état des sièges et des responsabilités des parents pendant cette période. Il s'entretient avec Marc Marot-Fimbo.
Monsieur Joël Kawuya, bonjour.
Bonjour, cher journaliste.
Alors, le Parlement d'Afon fait quel type de perception de l'état de siège?
J'aimerais dire que tout d'abord, la loi, elle est dure, mais elle reste de toutes les façons la loi. Et si on parle de la Constitution, l'état de siège venant de la Constitution nationale, c'est que c'est une loi légiférée adoptée. Et nous, maintenant, dans le département de la protection de l'enfance, j'aimerais l'appuyer par la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfance. Je vais aller directement à l'article 30. L'article 30 dit ceci. L'enfant a droit au respect de sa vie privée, sans préjudice de droits des responsabilités de ses parents ou des personnes exerçant sur lui l'autorité parentale. Il ne peut faire l'objet d'immixation arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte illégale à son honneur et à sa réputation. J'aimerais dire que là, on ne montre même pas les départements. La loi remet la responsabilité. Pour vouloir dire, il n'y a que deux personnes qui vont répondre. Et nous, étant que Parlement d'enfants, nous faisons premièrement appel à cet enfant qui écoute maintenant. Que la vie, elle est sacrée. C'est-à-dire, la vie étant sacrée, la vie privée étant sacrée, l'enfant devra comprendre, il y a ce qu'on appelle manquement. Parce que nous ne devons pas chercher à dire aux enfants leurs droits sans leur rappeler leurs devoirs. Cela émane de nos responsabilités. Et le Parlement d'enfants en soi est un partenaire premièrement de parents. Tout enfant ne vient pas directement d'un milieu où on défend l'enfant. Tout enfant vient d'une famille. Avant d'être une bénédiction de la communauté, on est d'abord une bénédiction de chez soi. Voilà pourquoi je vais remettre à l'enfant d'être respectueux vis-à-vis de ses parents.
Concrètement par là, que voulez-vous dire, Monsieur Joël?
Dans l'état des sièges actuels, il ne suffit pas de trop dire. D'insulter, montrer son insolence ou montrer qu'on est émotif ou émotive à toute personne qu'on voit ou toute personne qu'on ne voit pas. Parce que la loi numéro 09 qui protégerait cet enfant vient de stipuler à l'article 30 que toute personne que tu vois, tu le dois le respect. C'est que même cette autorité qui sera investie, nous le devons le respect. C'est la loi qui vient de le dire. C'est qu'on se plie à une loi. L'individu n'a pas garant. L'individu n'a pas plus de poids. Si la loi, elle est dit, la loi, elle est due, elle restera la loi.
Alors, Monsieur Joël, parlons maintenant des responsabilités des parents vis-à-vis des enfants pendant cette période de l'état de siège.
Du côté parent, ce n'est pas parce que je suis émotionnel que je dois pousser mon enfant à agir. Mais le manquement va frapper l'enfant. Mais on va voir aussi qui est caché derrière l'enfant, c'est le parent. La personne adulte aura utilisé l'enfant pour de faits. Et ça sera ce qu'on appellera infraction. Toute personne âgée de plus de 18 ans est adulte et doit s'assumer. Et nous, étant que Parlement d'enfants, nous disons que le temps des sièges auquel nous sommes soumis actuellement, elle est appuyée par une loi. Et nous faisons aussi parler la loi. Peu importe acteur qu'on soit, de protection, on protège mieux que si on est d'abord protégé. Je ne devrais pas accepter mettre tous les enfants en danger ou moi-même me mettre en danger en devenant insolent ou en disant n'importe quoi. Même quand le journaliste nous brandit des micros, nous devons voir comment parler. C'est que nous sommes dans l'état qui jadis n'était pas. Mais si ça vient, c'est que nous devons nous confirmer par rapport à la loi.
Et votre message à la communauté ainsi qu'aux enfants?
Je fais appel à la communauté de comprendre que toute chose qui arrive dans la vie à un début et une fin. Si l'état de siège peut commencer maintenant, et si on peut s'éluer en fait que notre pays soit dans les processus du développement, ne voyons pas seulement les mauvais côtés des choses, voyons aussi les bons côtés. Si les bons résultats permettra que la paix pour une éducation meilleure soit dans notre côté, dans l'état de siège. Pour nous, c'est la finalité qui compte. Si nos enfants vont étudier en bonnes conditions, si les gens vont rentrer dans le secteur des Renzori et commencer à cultiver à bonnes conditions, si à Mangina on ne verra plus la population qui court, si on verra que dans les territoires des Ringeti, les gens commencent à cultiver et les parents ne deviennent plus ceux-là qui vivent des 250 francs par jour par rapport à l'économie qui baisse de jour en jour. Alors nous, les acteurs de protection, on n'aura plus besoin même de voir les acteurs ou les organisations qui viendront parce que certains parents assumeront leurs responsabilités.
Monsieur Joël, nous vous disons merci.
C'est à nous de vous remercier, chers journalistes.
Sensibilisation des couches sociales dans le 3H féerie du territoire et de la ville d'Ouvira sur les obstacles et la marginalisation des femmes dans les institutions de prise de décision. La problématique a été débattue dans un atelier de 2 jours organisé par l'ONG Groupe Jérémy. Une activité similaire s'est déroulée à Bouéguéra, dans la plaine de la Rouzizi, ainsi qu'à Lemera, dans la chefferie des Bafuliro. Les participants ont analysé et déploré le faible accès de femmes rurales à l'eau, à la terre, à la propriété, aux moyens de transport ainsi qu'à l'éducation. L'UNICEF s'associe à la compagnie des télécommunications Africell pour porter plus haut le voix des jeunes à travers la plateforme sociale Une Report, afin de s'exprimer sur les thématiques de la société. Cette plateforme numérique développée par l'UNICEF a été lancée en RDC en novembre 2019. Il est disponible dans 80 pays à travers le monde, avec plus de 14 millions d'utilisateurs, dont plus d'un million en République démocratique du Congo. Enfin, la communauté universelle a célébré jeudi dernier la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Dans son message, la directrice générale de l'UNESCO fait remarquer que depuis plus d'un an, la crise pandémique de Covid-19 a entraîné une crise de la diversité culturelle. La fermeture de musées, des sites et du patrimoine mondial, l'annulation des festivals, des concerts, des cérémonies ont plongé le monde de la culture dans un vertige d'incertitude, affirme Madame Audrey Azoulay. Malgré cette crise de la diversité culturelle, nous devons l'aider à repartir de l'avant dans toute sa force et sa diversité, conclut-elle.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le coordonnateur humanitaire adjoint en RDC est l'invité de ce dimanche. Diego Zorila s'exprime sur les allégations d'exploitation et abus sexuels impliquant certains humanitaires pendant la riposte de la 10e épidémie d'Ebola dans la région de Beni et Butembo, au Nord Kivu. Il répond aux questions de Martial Papimukeba.
Diego Zorila, bonjour.
Bonjour, Martial.
Depuis quelques semaines, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer des allégations d'abus sexuels commis par des humanitaires, nationaux comme internationaux, pendant la 10e épidémie d'Ebola au Nord Kivu et à Ituri. Au niveau de la coordination des affaires humanitaires en RDC, qu'avez-vous déjà fait pour identifier ceux qui sont impliqués dans ces abus?
Nous sommes choqués et nous sommes dépités, nous sommes très émus par toutes ces allégations de cas d'exploitation sexuelle et abus qui auraient été commis pendant la réponse à la 10e épidémie à maladie à virus Ebola, surtout dans la zone de Beni et dans la zone de Butembo. Et il y a aussi des investigations qui sont en cours. L'OIM, l'UNICEF, qui avait été mentionné dans le premier article qui est apparu au mois d'août l'année dernière, ont mandaté les Nations Unies, le Bureau d'investigation des Nations Unies, pour conduire des investigations. Je sais que Oxfam a aussi conduit des investigations. Ça a mené à, d'ailleurs, à la suspension de staff. Et en ce moment-ci, l'OMS, qui le gros des cas mentionnés dans ces articles sont référés à du personnel qui aurait travaillé à l'OMS, l'OMS vient de commencer ses investigations. Donc nous sommes, nous, depuis la coordination, c'est encourager ces investigations, assurer qu'elles aient lieu d'un côté, et comme je vous ai dit, travailler dans le plus important, parce que le plus important, c'est avoir une approche centrée sur les victimes. C'est assurer qu'il puisse y avoir des mécanismes de prévention, des mécanismes de détection, des mécanismes de dénonciation et finalement un mécanisme de soutien aux victimes. Et nous encourageons toutes les personnes qui s'estiment avoir été victimes de ce comportement les dénoncer.
Et qu'est-ce qui se passera-t-il en cas d'identification des CEA effectivement trempés dans ces cas d'abus sexuels, surtout que beaucoup sont déjà rentrés chez eux, qu'il s'agisse des internationaux ou des Congolais qui sont venus d'autres provinces travailler dans la zone affectée?
Tout dépend de quel est le type de comportement, parce que les exploitations sexuelles et les abus peuvent être même des actes criminels. Donc dans ces cas-là, c'est-à-dire il peut y avoir des actes de violence sexuelle non voulue. Il peut y avoir aussi d'autres genres de comportements, c'est-à-dire une relation transactionnelle, c'est-à-dire une relation voulue par les deux parties, mais par laquelle une des deux parties s'est prévalue de son pouvoir sur l'autre partie pour convaincre d'avoir des comportements, des engagements sexuels. Certains de ces comportements, s'ils sont prouvés, peuvent faire l'objet de mesures disciplinaires, peuvent faire l'objet d'une termination de contrat, peuvent faire l'objet même d'actions civiles. La victime peut porter plainte contre les tribunaux pour des actions civiles, et certains peuvent mettre même des comportements criminels. Les indications que nous avons, la plupart de ces comportements, en fait, ce sont des travailleurs congolais et ils sont soumis à la justice congolaise. Mais de toute façon, je voudrais juste clarifier une chose, ce n'est pas l'OMS qui est accusé. Ce sont des individus, ce sont des hommes, des femmes, mais surtout des hommes, j'imagine, qui sont accusés d'avoir eu des comportements qui, d'après les standards des Nations Unies, qui sont des standards très élevés, pourrait constituer de l'exploitation sexuelle et des abus.
Et comment vous qualifiez ces actes si ils sont avérés?
Chacun d'entre eux individuellement en fonction de ce qui sera avéré. Comme je dis, certains de ces comportements les plus déviants, les plus extrêmes, peuvent constituer des crimes. J'ai entendu, il y a un article qui parle d'un cas de viol. Si ceci est avéré, c'est un crime.
Qu'est-ce qui se passera-t-il s'il y a des internationaux qui se retrouvent aussi dans la même situation et qui ont déjà quitté les territoires congolais?
Si ce sont des crimes avérés, il peut y avoir un mandat d'arrêt contre eux. Mais ce sont des individus, ce n'est pas l'organisation qui répond des crimes. Ça, vous, on comprend bien. Parce que je sais que dans certains contextes, là où il y a des soldats, des membres, des contingents, des forces armées qui sont impliqués dans des cas comme ça, la crainte, c'est qu'ils puissent être rapatriés et extraits à la juridiction du pays. Ici, non. Les humanitaires, les travailleurs humanitaires, moi-même, nous sommes des civils. Et si moi, demain, je commets un crime dans la République du Congo, même si après je repars dans mon pays, le Congo peut émettre un mandat d'arrêt contre moi pour des crimes que je puisse avoir commis. Mais comme je dis, de l'information que nous avons, la grande majorité de ces cas sont des cas d'exploitation sexuelle et abus. Oui, peuvent être des cas d'exploitation s'ils sont avérés, mais ils n'arrivent pas à être des crimes. C'est une chose différente.
Diego Zorila, merci.
Merci beaucoup.
La MONUSCO dote la mairie d'une salle polyvalente et moderne. Nous sommes là à Uvira, dans la province du Sud-Kivu. Un projet à impact rapide financé à hauteur de 50 000 dollars américains. Construite dans le cadre de la stabilisation dans la province, cette salle polyvalente facilitera le dialogue et la cohésion sociale entre les communautés locales. Les détails avec Fiston Goma.
Il s'agit d'une salle polyvalente de près de 400 places assises avec vestiaire, dépôt, latrine et véranda. Sa location génère des recettes et des emplois depuis déjà plus de 5 mois. Une occasion pour le maire Kiza Mouato de reconnaître la fierté et l'importance de ce projet dans son entité.
Le sens que je donne, c'est la bonne considération, le bon travail des partenariats, puisque la MONUSCO vient en appui à l'État congolais. Il faut cultiver l'amour et le sens de vouloir féliciter ce qui a déjà été fait. Ça, c'est la salle où on célébrera de mariage. Et à moindre coût, ceux-là qui veulent faire de leur fête, on peut les faire à un tarif réduit par rapport à des commerçants, puisque nous ne sommes pas des commerçants. Nous sommes l'État congolais et pour nous, le centre des activités, c'est le peuple d'abord.
L'autorité urbaine sensibilise la population civile locale à développer la culture fiscale pour maintenir et entretenir cet ouvrage, Kiza Mouato.
On a mis en marche les activités de la taxe et voilà, avec la taxe, on a contribué à raison de 7 820 $. Il n'y a aucune ville qui peut se développer sans que sa population puisse contribuer à travers les taxes, les impôts.
La MONUSCO inscrit ses projets dans la logique de soutien à l'autorité de l'État et des projets à impact rapide. D'Ouvira, Fiston Mayaba, la Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Je vous invite à présent à suivre la question du confrère Nicolas Ekila posée à la dernière conférence UN, suivie de la réponse du porte-parole de la MONUSCO, Mathias Gilman.
Moi, c'est Nicolas Ekila pour les comptes 24 heures News RDC. Ma question s'adresse au porte-parole de la MONUSCO. Quel sera le degré de collaboration de la MONUSCO avec les nouvelles autorités militaires du Nord Kivu et Ituri, où plusieurs sont acquisés dans vos rapports? Qu'en dites-vous?
Le niveau d'engagement, le mandat qui nous a été clairement donné par le Conseil de sécurité s'applique que les autorités provinciales soient civiles ou militaires. Donc nous allons continuer à les soutenir. Ce qui continue également de s'appliquer, c'est notre ce qu'on appelle la politique de vigilance voulue en matière des droits de l'homme, c'est-à-dire de s'assurer que notre soutien ne profite pas à des gens qui ont commis des violations graves des droits de l'homme. Et cette politique, elle aussi, continue de s'appliquer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette politique a pour vocation de créer un dialogue aussi, de créer une coopération avec les FRDC.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Retenez ces quelques rendez-vous dans vos agendas pour la semaine qui commence. La visite en RDC de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs, M. Ziar Wan, est dans nos murs, mais il aura cette semaine des entretiens avec les autorités congolaises. Et le 29 mai, nous l'avons annoncé, c'est la journée internationale des casques bleus des Nations Unies. Et voilà, mesdames et messieurs, cette émission touche à sa fin et nous vous remercions de l'avoir suivie. Une émission qui a connu le concours d'Honoré Missenga Kalala, Fiston Goma et de Martial Papi Moukeba. Jean-Pierre Elali Ikoko l'a coordonné et présenté. Rendez-vous donc dimanche prochain pour un autre numéro de Maguen. Bonne suite des programmes de Radio Capi et excellente journée dominicale à tous.